justement d'une reprécision, c'est pas capté au moment où vous avez parlé de la taxation, il faudrait taxer les dividendes, je n'ai pas bien compris.
D'accord. J'en prends plusieurs peut-être, non?
Daniel?
Après, une question utopique. Supposons qu'il n'y ait qu'un seul impôt, qui soit l'impôt sur le revenu, qu'il n'y ait pas le TVA. Est-ce que c'est vraiment utopique?
Oui.
L'impôt sur le revenu à la source, en supposant un mécanisme pour tenir compte du foyer fiscal dans un second temps. Enfin, il y a plusieurs.
Je fais les trois. La reprécision est la suivante. L'idée est, lorsqu'une société génère du bénéfice, une partie de ce bénéfice va être investie, une partie mise en réserve, une partie distribuée sous forme de dividendes. On a constaté que, à la fin des années 90, début des années 2000, une part croissante des profits était distribuée, tout simplement parce qu'il y avait une pression des actionnaires. Des actionnaires, des investisseurs, les zinzins, les investisseurs institutionnels notamment. On a calculé de mémoire entre 1998 et 2007, les dividendes distribués augmentaient de 255%, alors que les profits augmentaient de 98%. Les profits des entreprises du CAC 40, augmentaient de 98% entre 1998 et, j'ai un doute, c'est 2006 ou 2007, enfin une année, bon voilà. C'est 98% de plus pour les bénéfices, 255% pour la distribution de dividendes. Ce qui veut donc dire qu'on a distribué beaucoup plus de dividendes, évidemment, qu'on a généré de profits, même si ceci était important. C'était la période, rappelez-vous, où on atteignait, pour les entreprises du CAC 40, 100 milliards d'euros de bénéfices, juste avant la crise. Donc l'idée, c'est de dire, si on veut limiter la distribution de dividendes, parce que la distribution de dividendes, elle se fait sur. Il ne s'agit pas de l'empêcher. Mais les investisseurs arrivent, font pression, c'est le fameux retour en equity, donc ils veulent leur 15%, c'est souvent le chiffre qui était avancé, parfois c'est moins, parfois c'est plus bien sûr, mais c'est souvent. Et donc ça veut dire qu'ils veulent très rapidement un retour sur leur investissement. Très rapidement, ça veut dire qu'on fait pression, on fait pression sur les coûts, donc les conditions sociales, donc et au final, y compris la compétitivité de l'entreprise. Et ça veut dire qu'on fait pression également sur l'investissement. Et moins d'investissement, objectivement, c'est absurde sur le plan économique. Donc si on veut rééquilibrer, la fiscalité peut jouer un rôle incitatif. Si, au lieu d'avoir un taux de 33%, je vais faire sur le taux facial, un taux de 33% d'impôt sur les sociétés, on pourrait avoir deux taux. Un taux qui impose les dividendes, qui serait supérieur au taux qui imposerait le profit non distribué. Dans le profit non distribué, il y a notamment le profit réinvesti. Si on fait un taux plus fort sur les dividendes, alors l'entreprise va se dire j'ai peut-être intérêt plutôt à investir et à moins distribuer de dividendes parce que je vais être plus taxé. Après, c'est pas exemple d'effet pervers, parce qu'on peut aussi avoir l'effet pervers, c'est-à-dire, alors du coup, l'investisseur va demander encore plus, va faire encore plus de pression. Mais il y a quand même un effet des incitatifs. Alors derrière, on peut l'agrémenter de conditions de durée, etc. Ça pourrait être un impôt sur les sociétés assez complexe. Mais de la même manière que ça existe au niveau de l'impôt sur le revenu, on peut très bien imaginer que un investissement de long terme soit moins taxé. Mais ça demande une gestion objectivement à peu près impossible pour les grands groupes. Mais bon, il y a des chercheurs qui sont là-dessus. Alors l'impôt sur le revenu, j'y reviendrai pas. L'impôt sur le revenu unique, utopique, oui, souhaitable, sans doute pas, en plus. Parce que ça veut dire qu'on impose que des particuliers, déjà. Donc c'est un problème par rapport aux entreprises. Et on impose le revenu. Donc alors certes, si on a un impôt sur le revenu, sur un plan tout théorique, si tout le monde part avec zéro de patrimoine, si on a un impôt sur le revenu bien fichu, on limite l'accumulation, et comme même si les salaires et les revenus, de manière générale, sont inégalitaires, on peut limiter l'accumulation de patrimoine. Pour autant, un impôt sur le revenu comme seul impôt, ça exonère les entreprises qui génèrent eux-mêmes des revenus. Et donc, à ce moment-là, il faudrait déjà au moins deux impôts. Après, les fiscalistes vous diront que mieux vaut plusieurs impôts parce que la base imposable, ce n'est pas une matière monolithique, hein, surtout dans un contexte économique complexe, elle emprunte plusieurs chemins, et y compris il n'est pas absurde d'avoir un impôt sur la dépense. C'est une utilisation des revenus, sous condition bien sûr que si possible la TVA soit la moins injuste possible, etc. Mais y compris l'impôt sur la dépense économiquement se justifie. Donc de ce point de vue-là, dire qu'on n'a qu'un impôt, quand bien même on aurait l'impôt sur la société d'un côté, l'impôt sur le revenu de l'autre, je n'ai pas expertisé la question, hein, mais ça concentrerait la fiscalité sur une seule assiette. Hors d'expérience, les systèmes fiscaux marchent mieux lorsqu'il y a plusieurs assiettes. Alors, la retenue à la source. Alors, moi, souvent, on me pose souvent la question, puis on me dit, quand j'y suis contre, on me dit, c'est normal, hein, vous êtes à Bercy, vous défendez vos emplois. Sauf que, je dis que si c'était que par rapport aux emplois que je voyais la question, je demanderais la retenue à la source. Pourquoi ? Parce que ça passait mon expression un tel bordel à mettre en place que j'irai tout de suite voir Cahuzac pour dire, là, il me faut des milliers d'emplois, hein, parce que sinon, on n'arrivera pas. C'est un trait d'humour, mais pourquoi ? Moi, je ne suis pas favorable, tout ça pour plusieurs raisons. C'est que c'est, en tout cas dans les conditions actuelles de l'impôt sur le revenu, particulièrement complexe à mettre en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, on a un impôt sur le revenu qui fonctionne de la manière suivante. Vous faites une déclaration en année N+1 de vos revenus N, et à la fin de cette année N+1, vous allez être imposé. La retenue à la source, pour qu'elle marche bien, il faut qu'elle impose vos revenus de N en N. Ce qui suppose donc de connaître tous vos revenus, pas simplement vos revenus d'activité, mais si possible tous vos revenus. Je vais préciser ensuite, parce qu'il y a eu des travaux là-dessus, hein, mais en théorie c'est ça. Ça suppose de connaître tous vos revenus et éventuellement la composition de votre foyer fiscal pour asseoir correctement l'impôt, parce qu'on a un système de consent familial, je n'ai pas abordé, parce que je n'ai pas le temps, mais ça veut donc dire avoir un certain nombre de données. À la limite, même si on était vraiment le plus précis possible, il faudrait même dire quelles sont les dépenses qui devront avoir droit à réduction d'impôt pour ajuster le taux de retenue. Mais, de manière générale, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait une gestion très fine pour au moins, lorsque vous changez d'employeur, quelqu'un passe du chômage au travail, ou l'inverse, malheureusement, ou lorsqu'il y a une modification substantielle du foyer fiscal, lorsqu'il y a des revenus qui n'étaient pas connus et qui viennent s'ajouter, il faudra ajuster le taux de retenue. Comment on ajuste le taux de retenue ? Il y a deux choses. Une, soit c'est l'employeur qui gère tout. Alors là, c'est un des points d'accord. Le rare point d'accord que j'ai avec le MEDEF, c'est qu'ils n'en veulent pas de retenue à la source. Très bien. Top là, camarade. Mais pourquoi ? Parce qu'en coût de gestion, pour eux, c'est un truc beaucoup trop lourd à mettre en place. Puis alors, du côté des salariés, ils ne veulent pas non plus, parce que ça voudrait dire donner des renseignements personnels, beaucoup plus que ce qu'ils ont, aux employeurs. Pas top non plus. Et donc, la solution, c'est quoi ? C'est que l'administration fiscale, la Direction générale des finances publiques, gère les variations de taux retenu. Concrètement, ça voudrait dire quoi ? Vous avez un changement dans votre situation, vous allez voir les services, nos collègues, qui vont vous calculer le taux de retenu, puis ensuite vous allez dire à votre employeur, mais maintenant le taux de retenu, c'est ça, etc. Ce qui veut donc dire que ça générait un accueil colossal, parce que c'est des millions, pour ne pas dire des dizaines de millions de variations qu'il y a tous les ans. Donc ça voudrait dire une gestion pas possible, y compris pour les salariés en termes de visibilité. Alors après, la parade à ça, c'est ce qui a été fait dans certains pays, c'est de dire, eh bien, pour éviter une gestion trop fine, trop personnalisée et trop lourde, tant pour l'administration que pour les salariés et qu'éventuellement pour les employeurs, on va faire la chose suivante, on va regarder le taux d'imposition que vous aviez l'année d'avant, puis on va le reproduire, et puis ça sera un système d'acompte. Alors à ce moment-là, par rapport au système actuel, quelle est la valeur ajoutée ? Parce que ça veut dire que vous allez donc payer des acomptes, et que l'année d'après, sur la base de votre déclaration, parce que dans tous les cas la déclaration est maintenue, on va ajuster à la hausse ou à la baisse le solde à payer, ou on va vous rembourser si vous avez gagné moins, si votre impôt sur le revenu est moindre. Et on retrouve donc un peu ce qu'on connaît aujourd'hui, avec la mensualisation. Aujourd'hui, la mensualisation plus les paiements à l'échéance, c'est 8 contribuables sur 10 qui ont opté pour des modes de paiement plus ou moins automatisés, etc. Bon, il y a un système de régule à la fin, à la hausse ou à la baisse, etc. Donc du coup, la véritable retenue à la source, nous on la mythifie un peu en France, souvent, parce qu'on ne l'a pas, on se dit « Ah, dans les autres pays ». Mais dans les autres pays, déjà sur plusieurs types de retenue à la source, ils ont des déclarations, ils ont une régularisation, il reste un décalage entre le solde de l'impôt payé et ce qui est, et l'année, comment dire, et les prélèvements. Donc voilà, parce que c'est lourd et parce qu'en plus, alors là pour le coup en France, entre le quotient familial, on est les seuls en Europe à l'avoir, le nombre de niches fiscales qu'il y a, font que d'une année sur l'autre, même la situation de revenus a changé. Si vous faites un don, etc., ben, votre taux d'imposition, votre impôt va bouger. Et donc, en théorie, ben, soit ça va faire varier votre taux de retenue mensuelle, ou alors s'il ne varie pas, ben, ça va faire varier votre impôt au final à payer. Donc du coup, on se dit que ça fait une opération très lourde pour pas grand-chose. Puis il y a quand même un dernier risque. Ça s'est passé, il y a eu un scandale en Belgique il y a une dizaine d'années. Puis ça se passe aussi en France du point de vue de la TVA. Les collecteurs d'impôts seraient les employeurs. Ils ne reversent pas tous la TVA actuellement. Ils ne reverseraient pas tous l'impôt sur le revenu. C'est aussi un problème en termes de manque à payer, parce qu'aujourd'hui, on a un taux de recouvrement qui est excellent en France. On est à presque 99%, pour savoir. Je ne suis pas sûr qu'on les atteindrait avec... Et alors, pour conclure sur l'impôt sur le revenu à la source, bon, je pense qu'il faut... On pourrait tout à fait imaginer demain d'avoir... L'administration fiscale l'a déjà un peu fait d'ailleurs, hein. On n'est pas contre tout d'ailleurs. Mais une gestion un peu plus fine, ça se passe déjà lorsque vous avez des chutes de revenus, vous avez des plans de règlement qui sont automatiquement accordés, vous pouvez faire varier votre mensualisation, etc. Donc qu'il y ait une gestion plus souple, c'est souhaitable, c'est normal. Hein. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dès lors qu'il y a un rapport sur cette question-là, il y a eu Migaud en a fait en 2006, tout comme Thierry Breton à l'époque où il était ministre. Il y a eu des travaux de la Direction générale du Trésor, que je ne dise pas de bêtises. Tous concluent que, au-delà, on peut le faire techniquement, mais que ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Et alors, le dernier rapport en date, c'est le Conseil des prélèvements obligatoires qui dépend de la Cour des comptes, qui a dit que tous les avantages supposés de la retenue à la source se sont largement réduits au regard des inconvénients que ça générerait si on passait à ce nouveau système. Du coup, moi, je ne peux pas dire mieux. C'est nous, les travaux qu'on avait faits montraient déjà ça. La construction de l'impôt en France, elle a une certaine logique qui fait qu'aujourd'hui, on a plutôt intérêt à assouplir, à améliorer le système de prélèvement qui existe. Maintenant, si demain, on passe à ce que certains pays ont fait, c'est-à-dire la flat tax, c'est-à-dire le même taux d'imposition pour tout le monde, on pourra faire la retenue à la source. Mais pour, ce sera un impôt injuste. Mais pour autant, ça n'éliminera pas le risque de non-reversement des employeurs. Il existe. Pour vous dire qu'en TVA, c'est quelque chose.
Une autre série de questions, Florence.
Oui, tu as dit que la moitié du budget de l'État, c'est donc la TVA, qui est l'impôt le plus injuste, qui est le plus inégalitaire. Là où les deux mesures fiscales qu'un gouvernement pourrait prendre très rapidement, avec des mesures techniques rapides, et qui permettraient, puisqu'ils ont pris l'augmentation de la TVA, qui est extrêmement mal vécue par l'ensemble de la population, qu'elle soit de droite ou de gauche d'ailleurs, donc quelles seraient les deux mesures fiscales qu'on pourrait prendre techniquement facilement et qui permettraient de réduire un peu l'inégalité? Est-ce que, je ne sais pas si c'est une question possible, mais si.
Hubert ?
Oui, moi je suis choqué par l'image catastrophique que l'impôt a vis-à-vis du public, des citoyens. L'impôt, c'est un enjeu électoral. Il faut, le candidat qui veut être élu, il dit « je vais faire payer le moins d'impôts possible ». La démocratie est devenue la somme des égoïsmes et les candidats l'ont quasiment tous compris. Alors, moi, la question que je poserais, c'est un véritable gouvernement de gauche, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il fasse quelque chose pour revaloriser l'impôt qui, en fait, est le moteur de toutes les solidarités, de toutes les orientations économiques compatibles avec une croissance écologique, etc.
C'est fini, Sarkozy.
Oui, il y en a plus. C'est fini. Mais ils sont toujours debout, alors.
Oui, il y a bien un problème quelque part. Bon. TVA, ouais, il y a une quantité de choses à dire parce qu'il y a eu le débat sur la TVA sociale, etc. Puis on avait fait un petit truc avec les copains d'attaque là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les deux questions se rejoignent, hein, parce que moi je pense que la première mesure c'est d'expliquer l'impôt. La première mesure c'est de faire de la pédagogie, c'est faire œuvre citoyenne. Et donc malheureusement il y a du retard, il y a du boulot. Donc avant toute chose, si on veut un consentement à l'impôt, qui est quand même la base de toute démocratie, si on veut des choix si possible justes, en tout cas compris, il faut déjà expliquer à quoi ça sert. C'est vrai qu'il faudrait faire un ouvrage ou un truc ou un film, une fiction sur une société sans impôts. C'est quoi une société sans impôts ? Ben, c'est pas une société, tout simplement. C'est une société locale. Ah, mais je vais y venir parce que j'ai un peu travaillé sur la question. Et je pense qu'il faudrait. Ce que je vais vous dire va vous surprendre. Bon. Mais donc, il faudrait déjà expliquer l'impôt. La première mesure. Je ne sais même pas, c'est les deux gauches. Enfin, pour moi, ça sera la gauche de le faire. Mais elle est tout simplement citoyenne. Hein. C'est d'expliquer à quoi ça sert pour que chacun fasse ses choix en toute connaissance de cause. Alors, pour le coup, ça, c'est très utopique. Mais dire, ben, quand vous mettez un euro là, vous en avez une contrepartie, même si vous ne la voyez pas. C'est pour ça qu'il faut tout de suite dire, lorsqu'on vous dit, ah, ben, les impôts, à quoi ça sert, l'éducation nationale privatisée, c'est 8000 euros. C'est ce que l'OCDE... c'est une institution sérieuse, on va dire que c'est juste. C'est le coût d'un enfant au collège, c'est 8000 euros. En école primaire, c'est 5000 euros. Je vous disais, c'est 10 000 euros au lycée. Les études supérieures, encore plus. Même si aujourd'hui, on ne nous ferait plus payer d'impôts et de prélèvements obligatoires, on n'aurait pas assez avec le peu qu'on récupérerait. On n'aurait pas assez, tout simplement, pour se financer tout ça. Parce que ça voudrait dire que le coût de ces besoins serait concentré sur les utilisateurs, donc sur les familles avec enfants, par exemple, pour l'école, tout simplement, on ne peut pas faire face. On ne peut pas envisager le long terme, l'investissement de long terme. On ne peut pas envisager une cohésion sociale. On voit bien qu'il y a une contrepartie à l'impôt qui n'est jamais assez revalorisée. Et en réalité, il faudrait parler de dépenses publiques avant de parler de recettes. Qu'y a-t-il derrière chaque dépense publique ? Ben, y a les services publics. Et on voit bien, la RGPP nous l'a quand même un peu montré. Prenez quelqu'un dans la rue, est-ce qu'il faut réduire les impôts ? Oui, est-ce qu'il faut réduire les services publics ? Ah ben non, enfin pas les miens en tout cas, pas ceux à côté de chez moi. Quoi. Et donc on voit bien les élus eux-mêmes, les parlementaires, on en voit, parce qu'en ce moment il y a quelques actions locales autour de la fermeture de trésorerie chez nous. Les gars, c'est surréaliste, j'en ai rencontré un, le type dit oui, il faut réduire, machin, alors les emplois, puis alors tout un tas d'idées reçues sur en ce qui nous concerne nous, parce que nous on continue à traquer au niveau des emplois, hein, donc on a perdu 25 000 emplois en 10 ans. Et on nous dit, c'est normal avec l'informatique, hein, vous pouvez y arriver. Enfin bon, vous n'énervez pas au front, mais c'est le discours qu'on entend des politiques. Hein. Et puis il nous dit, mais puis il faut réduire la dépense publique, la dette, etc. Par contre, les mêmes, on les retrouve pour batailler contre la fermeture de l'école, de la trésorerie, etc. Bon, vraiment, si on ne fait pas le lien, évidemment, on ne peut pas s'en sortir. Donc il faut expliquer à quoi ça sert et en quoi il y a un rôle économique et social. Je pense que du coup, la gauche aurait intérêt à assumer davantage le discours économique, pas le discours économique de la droite, hein. Mais discours économique de dire on a intérêt à réduire les inégalités, on a intérêt à avoir une redistribution. D'ailleurs, on a un peu moins mal résisté à la crise que d'autres États parce qu'on avait encore un système redistributif. Et je pense notamment au système en matière d'indemnisation chômage, alors qu'il y a la moitié des chômeurs qui ne sont pas indemnisés. Hein. Je ne dis pas que le système est idéal, mais on voit bien que réinjecter de l'argent a permis aux gens de faire un peu face. Et globalement, au niveau macroéconomique, d'avoir une récession de moindre ampleur. Donc, y compris, il y a un rôle économique à jouer là-dessus. Donc, il faudrait expliquer l'impôt. Alors, comment on le fait ? C'est là que je vous disais, ça va vous surprendre. Mais il se trouve que j'étais il y a quelques années, il y a 2-3 ans de ça, dans un débat avec une avocate fiscaliste. Le camp d'en face. Donc, on n'était pas d'accord pendant le débat, je vous rassure, jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, on dit, quand même, c'est terrible. Et puis, elle était quand même fiscaliste. Donc fiscaliste, ça veut dire quelqu'un qui aime bien la technique, qui aime bien jouer, etc. Alors elle ne faisait pas d'optimisation, c'était pendant le contrôle fiscal, je m'en suis quand même assuré. Donc c'est les dimensions conseil, et puis bon, tout le monde a droit à un avocat, même si les avocats fiscalistes sont réservés quand même une poignée de gens très aisés, voilà. Mais bref, on s'est dit, allez, on va essayer de travailler sur un truc pour les enfants, parce que surtout c'était les enfants, puis... Et donc, on a commencé à réfléchir à trois. Il y avait un ami à elle, sur ce que serait un jeu. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Bon, après, alors, il se trouve que là, on a fondé une association, on a même fait un truc à Bercy avec des gamins, il y avait, on avait fait venir Jamy de C'est pas sorcier pour ceux qui... Donc on avait fait un truc à Bercy assez, assez sympa, mais on testait l'idée. Les gamins parlaient d'impôts, super, hein. Ils avaient été un peu briefés par les maîtresses, et ça a déroulé, super, on leur a fait visiter Bercy, enfin bon. Donc on s'est dit, là, il y a quelque chose. Pour la petite histoire, il se trouve que les deux de l'association sont partis dans deux voies différentes, ben, bref, il y a deux jeux qui sont en cours de préparation, on verra ce que ça donne. Hein. On est allé les labelliser par l'éducation nationale, bien sûr, bon, ça vaut le côté ludique, mais il faut multiplier ce type d'expérience, et à mon sens, il faudrait que les grands jouent à ça. Mais ensuite, il y aurait...
C'est quoi une société sans impôts ? Montrer aux gens ce que ça
c'est. Mais c'est ça, il faut jouer sur tous les trucs. Que vous apporte l'impôt, et donc si on imagine une société sans impôts, on voit tout ce qu'on perd. Et on met un coup en face, on se dit finalement j'ai peut-être intérêt à payer ce que je paye, parce que ça me reviendra toujours moins cher que si je devais me payer par moi-même. La logique elle est là. Ensuite il y a de la pédagogie citoyenne, alors, pour les enfants, mais aussi pour les adultes, hein, parce que les jeux, je peux vous assurer que pour les enfants, pour les adultes c'est pareil. Mais tout ça c'est des vecteurs. Le principal défi c'est le discours politique sur l'impôt. Le discours politique sur l'impôt... À partir du moment où on dit c'est moins d'impôts, même si ça a un petit peu changé avec la crise. Il y a beaucoup de choses qui se sont vues avec la crise. Et il y a un débat qui est très intéressant, je pars un peu, mais c'était le bouclier fiscal. Quand le bouclier fiscal était créé par Copé, au passage, à 60%, il a été, c'est Sarkozy qui l'a, entre guillemets, amélioré. Mais à l'époque, c'est Copé et Villepin, qui étaient Premier ministre, qui avaient créé le bouclier fiscal. À l'époque, ils disaient on ne peut pas payer plus de 60% de son revenu en impôts. L'idée était passée comme une lettre à la poste. Hein. Nous, on avait été en disant non, non, le discours est faux, il est trompeur, etc. Mais on était dans le vide. Hein. Et puis Sarkozy est arrivé en 2007 en disant c'est pas ça, 60% c'est 50%, ce qui est encore pire, parce que ça fait un bouclier fiscal encore plus coûteux, encore plus inefficace d'ailleurs, mais aussi encore plus injuste. Mais ça, là aussi, c'est passé. Il n'y avait personne pour dire ça rime à rien, parce que le discours politique est joué sur l'émotionnel. Chacun se projetait lui-même en s'en train de se dire ah ouais, si je lâchais la moitié de mon revenu, quelque part je pourrais pas. Simplement, il fallait voir le contenu du bouclier fiscal. On parlait de revenus imposables, déduction en fait de certaines niches. On y mettait les impôts sur le revenu, sur le patrimoine, les impôts locaux, un certain nombre de prélèvements sociaux. Enfin bref, on mélangeait les choux et des carottes, et puis on disait c'est plus de 50%, c'est horrible. Et ensuite, ce qui s'est passé, il y a un retournement de l'opinion, parce qu'on a vu l'échec, on a vu à qui ça a bénéficié. Alors là, c'était plus pareil déjà. Hein. 30 millions pour Liliane, ça passait moins. Hein. Mettons en cours, pardon, parce qu'on est assez intime maintenant avec Liliane. Mais pas financièrement, malheureusement, croyez-le bien. Mais donc, lorsqu'on a vu l'échec, on a vu les profils, on a vu 1000 personnes qui avaient 365 000 euros de remboursement par an chacun, on s'est dit là, on voit bien que les 50%, enfin le truc était trompeur. Et puis il y a eu la crise, ça va mener aux paradis fiscaux. Mais on a vu ce que ça coûte, qu'il fallait bien faire face à la crise, qu'on ne pouvait plus augmenter l'impôt sur les classes modestes et les classes moyennes, donc il faut faire payer les riches. On a vu que la fraude fiscale était une échelle internationale particulièrement coûteuse. On a vu donc que les paradis fiscaux généraient et de la fraude fiscale, mais pas simplement du blanchiment, puis surtout étaient des espaces de dérégulation. Et quand vous regardez les étapes de la crise des subprimes, vous apercevez quoi? Que les banques avaient la fameuse titrisation, ça se faisait via les paradis fiscaux. Enfin bon, on a vu que ces poches-là, paradis fiscaux et judiciaires et réglementaires, avaient été des éléments déstabilisateurs pour l'activité économique et que ça avait même généré sur le strict plan fiscal une injustice, tout simplement du fait de la fraude. Et la fraude fiscale internationale, encore une fois, on est très peu armé pour lutter efficacement contre elle. Donc le premier discours, je reviendrai sur les paradis fiscaux, mais à tenir, c'est de dire voilà à quoi ça sert. Et si on dit ben derrière ça vous avez un impôt, et ben si vous n'avez pas d'impôt, vous aurez ça à payer quand même. Vous paierez sur vos deniers propres. Ne serait-ce que ça, je suis toujours stupéfait de voir que des hommes politiques brillants et intelligents, on va dire comme ça, ne tiennent pas ou tiennent trop peu ce discours-là. Même si avec la crise, ça s'est un peu corrigé, on était moins dans la dernière époque sur on va baisser les impôts, mais plutôt lesquels vous allez augmenter, et la polémique se porte davantage là-dessus. Mais on n'est pas sur un discours encore assumé, de dire, ben voilà, tout simplement parce que l'état de la population aujourd'hui, c'est qu'il y en a très peu, la plupart des gens ne veulent pas payer d'impôts, veulent payer moins, veulent, etc., parce qu'ils pensent qu'ils s'en sortiront seuls contre le reste du monde, parce qu'au final, c'est ça. Alors, donc le premier, au-delà des mesures fiscales, parce que je disais sur les niches fiscales, la progressivité de l'impôt sur le revenu, les discours au niveau de l'Europe, nécessairement il y a quelque chose à faire. Le financement de la Sécu aussi, c'est quelque chose de très sensible dans le mouvement social, mais il faut absolument mettre les pieds là-dedans. Au sein de Solidaire, au sein de la CGT, au sein de la FSU, au sein de tous les syndicats, il y a un débat là-dessus. Donc on n'est pas nécessairement tous d'accord entre nous. N'empêche que le bilan qu'on peut faire, c'est que depuis... moi, j'ai jamais connu des élections, par exemple, en caisse de sécurité sociale, donc sur la démocratie, c'est déjà quelque chose. Mais sur le financement, on s'est fait manger la mine sur le dos avec les allègements de cotisations sociales, avec les niches sociales. On a mis sous pression un système qu'on souhaite défendre et qu'on souhaite placer toujours en marge de l'État. Il ne s'agit pas d'avoir une confusion. Mais il faut que, notamment, les organisations syndicales et le mouvement social dans son ensemble s'emparent davantage de cette question-là pour dire, ben voilà, comment on fait pour financer. Là-dessus, il y aurait matière à faire. Je pense que c'est au moins aussi important que le débat fiscal. Mais voilà, la première mesure fiscale, c'est revaloriser, expliquer, et on revalorisera en expliquant. Puis après, on mettra tout ça en musique en termes de progressivité.
Donc ça m'arrange.
Ça peut être amélioré, puis il faut que ça soit largement diffusé. Mais ce qui est terrible, c'est que, bon, on en parlait tout à l'heure à table, vous avez une dizaine d'économistes qui font l'opinion dans ce bas monde, qui tournent toujours, qui disent toujours les mêmes âneries. Et puis alors, c'est pas Dominique Plion, Jean-Marie Ribé, bien malheureusement. Parce que, auquel cas, il pourrait être dit, ça m'arrangerait. Moi, ça serait très bien. Mais et c'est toujours les mêmes lieux communs. Et dès qu'on les met en face de leur contradiction, il n'y a rien. Hein. C'est d'ailleurs assez stupéfiant. Ils s'auto-alimentent. Puis quand il y a un contradicteur.
Très peu. En France, qu'on paye le plus d'impôts, etc.
Oui,
et c'est
ça.
D'avoir les chiffres sous les yeux.
Et ça se traduit en réformes nécessaires. Après, c'est toujours ça. Donc, c'est les réformes structurelles nécessaires ou indispensables. Bon, je ne sais pas quelle réforme structurelle, en quoi c'est indispensable, mais enfin bon, on balance ça comme ça. Mais n'empêche que c'est ça qui fait aussi le. Ah ben oui, tiens, ben voilà, je pensais à lui. Ah, il y en a. On va pas s'énerver, on va pas tous les citer. Mais voilà, c'en est un beau. C'en est un beau, voilà. Mais bon, donc c'est un fait. Et puis y compris, il y en a qui se contredisent. Je me souviens de Jean-Marc Sylvestre, de Sinistre Mémoire.
Oui, mais c'est, il paraît, j'ai lu l'autre jour que c'était son blog, il tient un blog probablement, je sais pas.
Ah non, là, lui, il était chroniqueur sur...
C'est le blog le plus consulté.
France Inter, TF1. Maintenant, il est sur... voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que... pour personnaliser. Il était président de la commission sociale au CNPF à l'époque. Intéressant. Bref, mais lui, pourquoi je dis qu'il était, il se contredisait ? Parce que lui, il était gravement malade. Il a dit « J'étais sauvé par les fils de la Sécu. » On s'est dit « Ça va lui passer. » Puis non, ça lui est revenu.
Ouais, il avait même écrit un livre.
Oui, un éclair de lucidité, que sais-je. Enfin bref, en tout cas, c'est les faiseurs d'opinion. Et c'est vrai qu'objectivement, c'est quand même eux qui font l'appui et le beau temps. Et dans les écoles de journalisme, à Sciences Po, etc., on rabâche le même truc. Bon. Donc voilà, donc ça c'est la première mesure, c'est d'expliquer, c'est le contre-discours, et c'est franchement le plus dur à faire. Un petit aparté sur les paradis fiscaux avant de venir sur les droits de donation en succession. Donc les paradis fiscaux, j'en ai parlé, alors que les multiples rôles qu'ils ont. Alors ils sont toujours en place, hein, rassurez-vous, parce que Sarko en 2009 avait dit c'est fini, parce qu'il fallait dire que c'était fini, il fallait prendre des mesures. Mais je l'aborderai juste sur l'angle métier. Alors, à l'époque, on nous a dit, c'est fini parce qu'on va passer des accords d'échange de renseignements avec eux, et donc on va pouvoir lutter contre la fraude fiscale. Aujourd'hui, alors, à l'époque, on était déjà des empêcheurs de penser en rond, on disait, attendez, le problème c'est que si vous n'avez pas des instruments coercitifs, à partir du moment où, admettons qu'on envoie des demandes de renseignements aux paradis fiscaux, s'ils répondent pas, ce qui est quand même assez courant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ils avaient fait, fin 2009, une loi de finances rectificative. Vous avez dit, on va faire une liste noire nationale. Et s'ils ne répondent pas, on les mettra sur la liste noire. Et ça permettra de mettre en place ce qu'on appelle, chez nous, des dispositifs anti-abus, etc. Bon. On avait dit, le problème, c'est que votre liste noire, elle ne comportait que 16 États. Alors, curieusement, il n'y avait pas la Suisse, il n'y avait pas les îles anglo-normandes, enfin, bref, tout. Il y avait par contre Tonga, des îlots ici ou là. Là, par contre, ils y étaient. Et on leur avait dit, utilisons, ce qui suppose des moyens humains, chez nous, évidemment, on en supprime, utilisons les nouveaux accords parce que c'est vrai que la France en a signé beaucoup, et testons-les, à tout le moins dans l'immédiat, avant d'en finir avec le secret bancaire, avant d'en finir avec tout ce qui est opacité, parce que ce n'est pas que le secret bancaire, c'est aussi les sociétés écrans, les trusts, etc. Commençons déjà par utiliser ce qu'on a. C'était pas, encore une fois, c'était pas révolutionnaire. Je le dis souvent, mais histoire de pour montrer que de temps en temps, même dans des démarches pragmatiques, on se heurte à des conceptions très particulières. Et bien aujourd'hui, on voit que non seulement on n'a pas été en capacité d'utiliser toutes les conventions fiscales internationales, mais que là où on les a utilisées, on a des réponses dans la moitié des cas environ, et encore la majorité des réponses qu'on a ne sont pas exploitables. Donc on aurait dû mettre tous ceux qui ne nous ont pas répondu ou qui ont mal répondu, on aurait dû les mettre sur la liste noire qui comportait 16 États en 2009, qui n'en comporte que 8 aujourd'hui. Pas d'instrument coercitif, ça ne marche pas, donc la fraude fiscale se développe. Et alors pour la petite histoire, il y avait une petite discussion tout à l'heure sur le crédit impôt recherche. Parmi les multiples mécanismes de transfert de bénéfices à l'étranger, comment l'évasion fiscale internationale se met en place, vous avez, et c'est au fond malheureusement assez simple, lorsque vous êtes une multinationale, vous pouvez agir sur tel ou tel État. Vous choisissez en fait vos implantations et le type de société que vous montrez, que vous montez, le type d'écriture, de montage, tout simplement pour optimiser, bien sûr. Et donc c'est assez facile de créer une coquille vide dans un paradis fiscal. À partir du moment où nous, on ne pourra jamais prouver qu'il n'y a pas d'activité réelle, par exemple. C'est assez facile aussi de monter des régimes fiscaux dans des États qui ne sont pas des paradis fiscaux, mais je pense notamment aux Pays-Bas, qui ont des régimes fiscaux, on va dire, très attractifs, pour ne pas dire privilégiés. Et finalement, de faire en sorte que le bénéfice que vous générez en France va se déplacer ailleurs. Alors comment ? Soit parce qu'on va vous facturer des prestations ou des ventes, on va vous les surfacturer, donc vous allez déduire de votre bénéfice en France le montant de la facture, pour faire court, et vous allez votre filiale à l'étranger va déclarer un bénéfice important, sauf que c'est une manipulation très artificielle, c'est la manipulation de ce qu'on appelle les prix de transfert. Vous pouvez loger une filiale, vous goinfrer d'un crédit impôt recherche en France, céder le brevet à une de vos filiales, qui va vous faire payer une redevance en France, qui est quand même extraordinaire. On donne de l'argent public pour le crédit impôt recherche, on n'oblige même pas les entreprises à exploiter le résultat de leur recherche en France, quand il s'agit de recherche, parce que parfois ce n'est pas le cas, et on retrouve des cessions de brevets, des redevances payées dans des paradis fiscaux. Donc il y a quantité, c'est deux très simples parmi d'autres, quantité de mesures. C'est pour ça que, là-dessus, à tout le moins, si on avait le vrai moyen d'utiliser toutes nos dispositions juridiques, on pourrait un peu mieux lutter, sachant que le vrai truc n'est pas là. C'est que le vrai truc, là encore, c'est un combat politique entre les États, c'est de dire, maintenant c'est fini. Sauf que pourquoi c'est pas fini ? Parce qu'on a des intérêts, chaque grand État a son paradis fiscal, parce qu'on considère politiquement, idéologiquement, que c'est une soupape de sécurité face au trop d'impôts, comme ce discours-là, pour de multiples raisons. Parce que les intérêts qui sont logés, de toute façon, sont tellement importants qu'on préfère leur dérouler le tapis rouge en France, au nom de la compétitivité. Et sur les droits de donation et de succession, je l'ai vite abordé, c'est l'impôt libéral par excellence. Les libéraux prônent un impôt unique sur le patrimoine. Les vrais libéraux, historiques, et notamment sur les successions. Parce qu'ils considèrent qu'il faut vivre du fruit de son travail, donc ils ne veulent pas l'impôt sur le revenu, là on a un point de désaccord. Mais les vrais libéraux disent qu'il faut remettre les compteurs à zéro et ne pas réussir par l'héritage, mais pas réussir par son mérite propre. Et c'est intéressant de voir que dans le discours des néolibéraux français, ça a été totalement occulté. Hein. Le beurre à l'argent du beurre. Moins d'impôts sur le revenu et moins de donations de succession. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, la situation est la suivante, c'est qu'on avait pendant quelques années ce qu'on appelle un abattement, parce qu'on ne taxe pas les petites donations de quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Cet abattement a été revu singulièrement à la hausse par Nicolas Sarkozy, parce qu'il était porté de 50 000 à 150 000 euros, ce qu'on appelle en ligne directe, c'est-à-dire d'un parent vers chacun de ses enfants. Ce qui voulait dire que moi j'ai deux enfants, je ne peux pas leur donner, mais j'aurais pu donner 150 000 euros à chacun, ma femme 150 000 euros à chacun. Enfin, vous voyez qu'en franchise d'impôts, on peut régulièrement, tous les 6 ans, puis maintenant tous les 10 ans, transmettre de l'argent. Hollande a réduit à 100 000 euros, a augmenté le délai de 6 à 10 ans, mais ça reste une imposition relativement mineure qui rapporte aux alentours de 7 milliards d'euros, donc à peine 2 ISF, alors que pour le coup, c'est un impôt véritablement intéressant. Et là aussi, l'idée qu'on avait développée avec l'IM, c'est de reprendre finalement les fondamentaux de cet impôt-là et de faire en sorte qu'on ait des règles communes qui existe pour partie entre l'impôt sur la fortune, ce qui serait donc dans notre dans le jargon, l'impôt sur le patrimoine, et les droits de donation et succession, de sorte que les abattements, qui est un parallélisme des formes, j'évoquais tout à l'heure un abattement sur la résidence principale aux alentours de 400 000 euros, ben, il pourrait jouer sur la donation comme sur la succession, comme il pourrait jouer sur l'ISF, on le limitera en montant, ce qui du coup permettrait de taxer davantage les grandes demeures, etc. Par exemple, on aura un abattement à la base, et l'idée c'est au bout d'un moment d'avoir une forme de stabilité autour de ça, mais de faire en sorte qu'on puisse imposer, y compris les classes moyennes supérieures, mais selon un barème progressif. Et après, ce qui restera à construire, c'est réécrire les barèmes actuels, parce qu'aujourd'hui, les barèmes, dès que vous donnez à votre sœur, à votre cousin, ce qui est quand même assez fréquent, vous êtes objectivement imposé à un niveau supérieur à ce qu'on pourrait véritablement entendre. Donc, il reste à reconstruire des barèmes. Et là aussi, les seules projections qu'on a faites sur la base de ce petit schéma nous donnent plus une recomposition à l'intérieur des droits de donation de succession, mais montrent que là aussi, on peut dégager 10 milliards d'euros là où aujourd'hui, on en a 7, quoi. Et par petites touches, 2 milliards là, 3 milliards là, etc. Ça fait déjà des recettes en plus. Mais pour les accepter, ben, il faut déjà expliquer à quoi ça sert.
Magali, une question. Ensuite, attends, Magali déjà.
Supposé gagner. C'est 200 000 euros maintenant. C'est...
D'accord, après, d'abord...
Je reviendrai, c'est ma question pour les dividendes paternels. Je voudrais savoir qu'a fait l'actuel gouvernement par rapport à la taxation des dividendes.
Alors, Jean, déjà...
Bon, c'est un petit peu débordant du sujet. Je pense qu'il faudrait... et contribuer aux choses qu'on aime bien, et le budget de l'État, il y a pas de responsabilité qu'on aime bien, la santé, l'école, etc., etc. Il y a des engagements financiers qu'on aime un peu moins, pour ma part en tout cas, je pense au militaire. Je me passerais d'être le propriétaire d'un morceau de sous-marin atomique, etc., ou de charleroi, etc. Je n'ai pourtant un peu si besoin que cela. Et j'ai aussi des engagements d'État qu'on attend et qui ne viennent pas. Je pense aux quartiers sensibles, il y a des jeunes qui perdent leur temps et dont l'avenir s'obscurcit aussi. Il faudrait une injection quand même de moyens un peu différents, tant école qu'entraînement, etc., et perspective, l'ouverture, l'emploi, etc. Il y a des choses, des engagements qui ne viennent pas. Alors tout ça fait réfléchir un peu différemment, à mon avis, sur contribuer, c'est aussi s'inquiéter de la politique qui est procédée.
Les dépenses. Bien.
Moi, je voudrais poser une question simple. Je voudrais savoir quel est ton sentiment sur la fusion impôt sur revenu de ces généralités, sachant qu'on nous l'a présenté en fait comme une mesure fiscale majeure. Aujourd'hui, il y a un rétropédalage. Si tu pouvais nous éclairer en fait sur les raisons obscures qui motivent cette reculade.
On continue la série, Hubert.
Oui. Oui. Moi, juste, je voudrais savoir si à Bercy, on a conscience d'un problème qui touche les gens qui tombent dans la trappe de la pauvreté. C'est-à-dire, une année, ils ont un revenu normal, et puis, soudainement, ils perdent leur emploi, ils tombent dans un autre revenu, et ils vont voir l'aide sociale, et on leur dit, montrez votre déclaration de revenus. Et ah, mais vous étiez riche, donc vous n'avez rien. Et ils ont une année à vivre, là, c'est la jointure. Est-ce que vous avez, est-ce que M. Cahuzac a conscience de ce petit problème pour les petites gens?
Attends, il y a encore un monsieur qui avait.
Non, c'était par rapport à la grande réforme fiscale promise par le Parti Socialiste, comment membre de trésorerie syndicale.
Pas de droite, on va dire.
Comment elle pense influencer cette grande réforme? Est-ce que ça vous semblait qu'il y ait une discussion avec la FDS?
Bien. Hervé, c'est un problème de terminologie qui rejoint la question posée par les dividendes. La terminologie est importante et quand on nous assène depuis des mois, des années, sur le terme le coût du travail, on pourrait répondre et le coût du dividende. Mais on n'entend pas cette réponse.
Ça, elle existe, mais elle n'est pas audible.
Ben oui.
Sur les journalistes. Alors, je vais faire un peu dans l'ordre. Oui, ce que tu dis sur le quotient familial. Alors, c'est plus vraiment considéré comme une niche fiscale, c'est considéré comme une dépense fiscale. Alors après, les termes ne sont pas neutres. Alors, la dépense fiscale, c'est quoi?
C'est un terme que je comprends pas.
Alors, la dépense fiscale, c'est un terme très techno. C'est l'État qui renonce à des recettes, parce qu'il prend une mesure fiscale qui est en réalité une niche fiscale. Je dois avoir 100 de recettes. Imaginons, je dois avoir 100 de recettes, mais j'accorde une réduction d'impôt de 20. 20, c'est ce que nous, entre nous, on va dire niche fiscale. Juridiquement, budgétairement, c'est considéré comme une dépense publique. Donc c'est une renonciation à recettes, c'est une dépense fiscale.
Alors c'est pas du tout compris.
Mais les dépenses fiscales, mais c'est un truc qui ne parle pas.
Oui, mais c'est un terme qui est souvent, de plus en plus utilisé, ouais. Et il y a une confusion, parce que pour nous, dépenses, on a l'impression que
on donne
c'est
de
l'État
l'argent.
Qui dépense pour nous quelque
Alors,
chose.
Oui, c'est une renonciation aux recettes. Par moment, on donne vraiment de l'argent, parce que quand c'est un crédit d'impôt, parfois on rembourse une partie de l'impôt. Par exemple, je dois 20 d'impôt, j'ai un crédit d'impôt de 30, et on va me donner 10, donc, en l'occurrence. Mais tout ça, c'est le terme dépense fiscale. On va dire que c'est un manque à gagner, la plupart du temps, qui peut se traduire, dans certains cas, par une dépense publique, et c'est le vrai terme. Alors là, ce qui est vrai, c'est que le quotient familial est une dépense fiscale, ou plus exactement, certaines demi-parts du quotient familial sont considérés comme des dépenses fiscales. Et le mécanisme du quotient conjugal de l'imposition conjointe, lui, n'est pas considéré comme une dépense fiscale. Ça a été déclassé. Ça a été déclassé il y a quelques années. Pendant longtemps, c'était considéré comme une dépense fiscale. Objectivement, ça procure de moindres recettes. Il y a eu tout un débat juridico-fiscalo-politique sur le déclassement des niches fiscales, parce qu'on a normalement dans la loi de finances toutes les niches fiscales, donc toutes les dépenses fiscales qui sont répertoriées. En réalité, elles ne le sont pas toutes. Certaines ont été sorties, parce qu'on a considéré que c'était simplement un mode de calcul, et on a notamment sorti le quotient conjugal, les demi-parts pour les enfants, et on n'a pas sorti les demi-parts supplémentaires, les personnes handicapées, les célibataires divorcés et veufs, en tout cas tant que ça existe, etc. Donc il y a un tri qui s'est opéré au sein des demi-parts, entre certaines ont été maintenues comme des dépenses fiscales, d'autres ont été déclassées. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça représente un coût très important, parce que le coût conjugal plus ces demi-parts-là représentent environ 40 à 45 milliards d'euros de manque à gagner, ce qui est évidemment colossal. Simplement, le but poursuivi, ce que tu disais, c'est de... Alors, il y a le premier débat, c'est de dire, on essaie de tenir compte en France de ce qu'on appelle l'équité horizontale. l'équité horizontale, c'est que à partir du moment où deux foyers ont le même revenu, le foyer qui a le plus de personnes, notamment de personnes à charge, doit payer moins. C'est ça l'équité horizontale. On peut le faire de plusieurs manières. Piketty, lui, il dit on peut faire des crédits d'impôt, c'est objectivement beaucoup plus équitable, hein, c'est le même montant par enfant. Parce que le quotient familial, lui, il va avoir tendance à avantager, même s'il est plafonné, on va dire les classes moyennes supérieures et les classes aisées. Quelqu'un qui n'est pas imposable, bah, bon voilà. Donc l'avantage procuré par le quotient familial est très inégalement réparti. Il y a des personnes qui en bénéficient, alors y compris dans ceux qui ne sont pas imposables, il y en a qui sans quotient familial seraient imposables, par le quotient familial ne sont pas imposables et ce ne sont pas des riches. Hein. Donc il y a un grand nombre de personnes qui bénéficient du quotient familial, mais l'avantage est à son maximum à partir de environ, que je ne dis pas de bêtises, 36-37 000 euros par part du quotient familial. Donc ce qui est un revenu de classe moyenne supérieure, sans plus. Et voilà. Donc, et le quotient familial aujourd'hui, ben, le débat c'est de savoir si est-ce qu'il faut que la fiscalité prenne en compte un objectif en matière de politique familiale et nataliste ou pas. Moi j'ai tendance à penser très lâchement que c'est d'abord une question liée à la politique familiale, qui peut connaître une déclinaison fiscale, mais c'est d'abord ça. Mais en même temps, là encore, on est le seul pays en Europe à l'avoir, et il y a encore plutôt un consensus autour du fait de le garder. D'ailleurs, il suffit de voir la façon dont le gouvernement a géré l'abaissement du plafond du quotient familial, qui était à 2330 euros, qui est passé à 2000 euros. C'est le montant maximum que vous pouvez retirer du demi-part supplémentaire qui excède deux parts pour un couple marié, une part pour un célibataire qui a des enfants. Donc voilà, pour l'instant, il y a ça. C'est un système qui est globalement déséquilibré, plutôt injuste. En même temps, il y a un attachement au quotient familial. Ensuite, deux, trois trucs. Alors, je fais un peu le décryptage. Les CGA, c'est les centres de gestion agréés. Vous savez, quand vous allez chez un commerçant, les chèques sont acceptés étant membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale. Il se trouve qu'il procède à un contrôle qui n'est pas un contrôle fiscal. Hein. C'est pour ça que moi, je pense pas que, malheureusement, je pense qu'il y a un abandon du contrôle fiscal, mais pas une privatisation. Parce qu'il faut savoir que les vérificateurs, lorsque on intervient dans une entreprise, on va vérifier, donc aujourd'hui concrètement on est en 2012, on va vérifier 2011, 2010, 2009, donc 3 ans. Mais lorsqu'il y a une adhésion au centre de gestion agréé, il y a une année qui saute. Vous ne vérifiez plus que 2 ans. Ce qui est quand même objectivement une régression. En plus, il y a une inégalité de traitement suivant qu'on est adhérent ou pas à un centre de gestion agréé. Et ça, c'est passé, ça a été pris par le précédent gouvernement, c'est passé un peu à l'as. Et de fait, il y a un abandon, on ne peut pas le dire autrement, un abandon. Le contrôle fiscal, c'est brider les capacités d'action. Ce n'est pas la seule mesure d'ailleurs, il y en aurait d'autres dont on pourrait parler. Donc ce que tu disais sur la règle du double, la règle du double, donc, ça a été expliqué, ça concerne l'examen des comptes bancaires des particuliers. Ce qu'on appelle les ESFP, examen de la situation fiscale personnelle. Alors, ce sont des procédures très lourdes, on en fait moins de 4000 et encore 5 ans, on en faisait un peu plus de 5000. Diminution parce que nous, on a moins en moins le temps de les faire, et aussi parce qu'on a été bridé par la possibilité de lancer des ESFP. Alors, Cahuzac a un peu assoupli, et ce qu'il nous a dit, c'est ce que nous on a dit, mais 200 000 euros, quand même, il faut un écart de 200 000 euros pour potentiellement demander des justifications et procéder à ce contrôle-là, pour faire court. 200 000 euros, tout le monde ne les a pas. Ben, mettons, si j'ai. Je vais prendre un cas. J'ai 500 000 euros. Moi, je me le souhaite, de revenus, et le fisc estime que j'ai un peu plus de 1 million, donc peut me demander justification et lancer cette procédure de contrôle. Ça, c'est la règle du double. Aujourd'hui, si le fisc estime que j'ai 700 000, il peut le faire. Donc ça, objectivement, assouplit, mais ça assouplit sur des revenus très élevés. Pour deux revenus aux alentours de jusqu'à 200 000 euros, ça n'a rien changé. Or, on a quand même des gens assez aisés dans ces... Là, on est déjà dans le 1% des Français les plus riches. Hein. Le 1% des Français les plus riches, c'est 150 000 euros par unité de consommation. Donc, bon. Donc, il y a eu un assouplissement, pas suffisant. Et il se trouve que cette procédure-là, quelque chose de, c'est assez contraignant et ça peut être assez efficace. Bon, sous réserve d'avoir du temps, etc. Donc, c'est vrai que bon, ça a été assoupli, mais pas trop, pas assez. Sachant qu'en plus, pour la petite histoire, la DGFiP, donc notre administration, voulait faire passer des mesures un peu plus révolutionnaires. Et là, la politique a dit, oula, on va se prendre une volée de bois vert sur c'est l'acquisition fiscale, etc. Ils ont peur de ça, quoi, franchement. Wörth en avait déjà peur. Cahuzac en a peur également, pas Cahuzac le gouverneur. L'île de Ré, oui, c'est vrai que ça a fait beaucoup de tort, d'autant plus que l'île de Ré, pour la petite histoire, on peut le dire, pour les coups, il y a prescription. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quelqu'un qui, effectivement, avait peu de revenus, qui détenait des terrains, donc il n'avait pas besoin de revenus pour entretenir son patrimoine, c'était des terrains. Et le maire de Ars-en-Ré, je crois, de mémoire, a pris un arrêté et déclarait les terrains constructibles. Comme l'île de Ré, c'est un marché immobilier fini, c'est l'île, la valeur, puis réputée, la valeur des terrains s'envolait, et le gars n'a même pas vu qu'il était à l'ISF. Là-dessus, on a un agent des impôts adhérent chez nous, qui a procédé au redressement fatidique, poum, prescription de 10 ans, absence de déclaration, et le gars s'est retrouvé avec une somme à payer, il s'est dit, mais d'où ça tombe cette affaire-là, etc. Bon, l'affaire aurait pu en rester là, parce qu'en fait, le type, il aurait pu faire un recours gracieux, etc., et donc avoir une réduction. Simplement, il y avait une association liée à l'UMP qui est arrivée et qui a dit, regardez, c'est un scandale, l'ISF, qui ça touche, etc. Alors que vraiment, il y a peut-être un ou deux cas comme ça sur l'île de Ré. Allez, mettons qu'il y en a 4 ou 5 en France, enfin j'exagère à peine. Le reste des redevables à l'ISF, c'est des gens qui ont des patrimoines importants, voire très importants. Parce que pour être imposable à l'ISF, avant la réforme de Sarko, il fallait avoir 800 000 euros de patrimoine net. C'est-à-dire vous prenez tout votre patrimoine, vous enlevez ce qui est exonéré, vous enlevez les abattements, vous enlevez vos dettes, et quand vous avez plus de 800 000 euros, vous êtes imposable à l'ISF. Tout le monde n'a pas 800 000 euros de patrimoine net. Hein. Et encore, à la première tranche, c'était quelques centaines d'euros. Hein, parce que la première tranche, en réalité, vous aviez la moitié des contribuables à l'ISF, ils étaient dans la première tranche, ils payaient moins de 1 000 euros. Donc, bon. Bref, voilà, ça a été utilisé, grosse campagne de com là-dessus, et mise en place du bouclier fiscal. Alors, je bois un peu parce que je sors de crève. Sur la taxation des dividendes. Le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est ce que j'ai qualifié tout à l'heure d'alignement de la fiscalité du travail et du capital. Avant, jusqu'à cette année, les dividendes étaient taxés à un taux proportionnel, qui était passé en quelques années de 16 à 21%. Et donc, tous ceux qui optaient, la plupart d'ailleurs optaient pour ce taux-là, tous ceux qui avaient des dividendes, les petits porteurs ou les gros actionnaires, ils étaient imposés au même taux. Demain, en théorie, mais bon, c'est ce qui a été voté là, c'est ce qui est en train d'être voté dans la loi de finances, il y aura un alignement. Ce qui voudra donc dire que les dividendes ne seront plus imposés à 21%, mais seront imposés au barème progressif. Alors, en réalité, il faudrait faire une étude un peu complète en tenant compte des problèmes sociaux, mais bon, les régimes sont différents. En clair, ce qui va se passer, c'est que la plupart des actionnaires étaient pénalisés par l'ancien taux, vont plutôt y gagner un peu. Les plus gros actionnaires vont payer plus. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il a fait. Mais il a amélioré, oui, c'est quand même une amélioration, la taxation des dividendes au niveau de l'impôt sur le revenu. Par contre, il n'a pas touché au bénéfice des sociétés lorsqu'ils étaient distribués sous forme de dividendes. Il n'a pas retouché l'impôt sur les sociétés, parce que la chaîne, c'est celle-là. La société fait des bénéfices, elle paye un impôt, elle distribue ses dividendes, et les dividendes sont imposés chez les actionnaires. Comme il y a eu beaucoup plus de distribution de dividendes, notamment jusqu'à la veille de la crise, comme en plus cela a été imposé moins, et comme en plus les grandes sociétés investissaient moins, la part de l'investissement reculait, pour favoriser l'investissement, on pourrait introduire une taxation plus forte de la distribution de dividendes, et les sociétés, plutôt que de distribuer, auraient intérêt à payer pour payer moins d'impôts, hein, à investir. Mais ça n'a pas été fait. François Hollande l'avait évoqué, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il le fera ou est-ce que c'est une reculade, je ne sais pas. Ensuite, bon, enfin, effectivement, enfin, vous avez raison, ça nous rejoint tout à l'heure, c'est le débat central, c'est quelle politique publique? Plus exactement, qu'est-ce qui relève de la politique publique? Dès que ça relève de la politique publique, alors c'est des impôts, ou si c'est la sécurité sociale, c'est des cotisations, c'est tout. On peut être en capacité de démontrer que pour un revenu de 100, de toute façon, il faudra débourser 50 pour financer certaines choses. Sauf que le financement public présente cet avantage, c'est qu'il rend disponible auprès de tous, parce que c'est l'égalité d'accès, l'accessibilité, enfin les principes du service public, hein. Il rend ce service à tous, que si ces 50-là sont financés par les individus, ben, ils n'ont que ceux qu'ils financent. Et du coup, ça introduit des inégalités. Donc, le principal débat, c'est ça. C'est pour ça que ça rejoint le discours de tout à l'heure, il faut déjà expliquer à quoi sert l'impôt, à quoi servent les cotisations sociales. La trappe à pauvreté, puis avant la fusion CGIA, la réforme fiscale, parce que c'est lié, Oui, objectivement, à Bercy, ils ont, on ne peut pas dire qu'ils n'en ont pas conscience. Alors là, je ne les défends pas outre mesure, hein, mais parce que c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de choses qui ont été prises, notamment, ils sont en train, la caisse d'allocation familiale, par exemple, ne se base plus sur la déclaration de revenus qui était faite, de ressources qui était faite. Maintenant, il y a une fusion, on peut dire comme ça, en tout cas, il y a un rapprochement avec la déclaration d'impôt sur le revenu. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le décalage, c'est un des arguments qui est avancé d'ailleurs par ceux qui veulent notamment la retenue à la source, hein. Le décalage d'un an pénalise ceux qui ont eu une chute de revenus brutale et qui disent « bon oui, mais regardez là ». Alors, il y a des solutions, hein, mais c'est des solutions, elles demandent de se bouger, entre guillemets, il faut prouver qu'on est au chômage, etc. Donc c'est vrai qu'objectivement, mais la trappe à pauvreté, c'est encore un peu différent. Là, c'est conjoncturel, que la trappe à pauvreté, c'est vraiment structurel. La trappe à pauvreté, c'est celui qui, à un moment donné, pour des raisons multiples et variées, il est maintenu dans un état de pauvreté, mais qui dure plusieurs années. Parce qu'il y a des solutions conjoncturelles pour lutter contre ce que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, avec le décalage. C'est pas parfait, objectivement. Mais ça existe. Le vrai enjeu sur la trappe aux pauvretés, c'est plutôt de faire sortir de la pauvreté ceux qui sont durablement, soit parce qu'ils ont des aides sociales, ça arrive malheureusement peu, ça arrive, mais je veux dire, mais heureusement peu, ils ont des aides sociales qui fait que quand s'ils reprennent un emploi, ils perdent ces aides sociales. C'était ce qui avait conduit au RSA, sauf que le RSA était très timide, mais objectivement, il y avait, ce phénomène existait. Et puis, mais ça existe aussi parce que, inversement, lorsqu'on distribuait de la prime pour l'emploi, ou lorsqu'il y avait des allègements de cotisations sociales, les employeurs disaient « je ne vais pas augmenter votre salaire parce que sinon vous allez perdre votre prime pour l'emploi ou sinon moi je vais perdre mes allègements » et du coup on maintenait un état de travailleurs pauvres. Et ça, là, pour le coup, il y a eu des vrais effets pervers. Alors sur la réforme fiscale, sur la fusion CGIR, donc c'est un débat ultra sensible parce que la CSG va à la Sécu, puis alors en plus, le mouvement social n'a jamais vraiment digéré la CSG, hein. Ce qui est paradoxal parce que la CSG impose des revenus du travail mais aussi du capital. Hein. Oui. La CSG, sur 85 milliards d'euros, vous en avez 11, c'est le revenu du capital. C'est quand même curieux. Hein. Il y a aussi les revenus du remplacement, ça, notamment les retraités qui ont un taux un petit peu en dessous de ceux des actifs. Bon. Mais c'est un impôt parce qu'il a la mécanique d'un impôt, l'assiette d'un impôt, mais c'est un impôt affecté à la sécurité sociale. Il ne passe pas par le budget de l'État. Et il rapporte 85 milliards d'euros. Il n'y a pas de niche fiscale, il n'y a pas de caution familiale, etc. Ce qui fait qu'avec un taux assez faible, 7,5% pour les salariés par exemple, vous avez un rendement qui est largement supérieur à l'impôt sur le revenu. Donc nous, on a coutume de dire que l'assiette de la CSG est intéressante. Pas son taux, son mode de prélèvement, mais l'assiette est intéressante. Puis de l'autre côté, on a l'impôt sur le revenu, qui est, lui, il y a le caution familial, il est progressif, mais il y a des niches fiscales, voilà. Donc, assiette étroite avec un barème progressif. Et la réflexion, c'est de dire, rapprochons ou fusionnons les deux. En fait, il y a une subtilité, il y a les deux écoles. Piketty, lui, il est l'une pour une fusion totale, et en disant, et chiffre en main, il a raison, ça rapportera au moins autant, sinon plus, ça sera plus progressif, c'est vrai. Là où il est très radical, c'est qu'il y a toutes les niches fiscales. Pas sûr qu'il y ait un consensus à moyen terme de toutes les supprimer, mais bon. Et puis là où il va loin, c'est qu'il dit, mais de toute façon, il faudra se poser la question de l'étatisation du budget de la Sécu, ce qui est encore autre chose. Parce qu'objectivement, ça, la fusion pose cette question-là. Hein. Donc, et après, il y a d'autres voies intermédiaires. Moi, j'essaie d'y travailler. C'est d'essayer de rapprocher les assiettes, mais de maintenir une séparation juridique. Parce que pour profiter des avantages qu'aurait une assiette large, pour qu'il y ait des ressources, puis ça permettrait pour le coup d'avoir quelque chose de plus simple, accessoirement, mais de maintenir ce qu'avec Klim on a mis loi organique, j'ai fait un texte pour le revenu mouvement, et puis avec Copernic on est allé un peu sur cette voie-là, de maintenir une séparation pour maintenir un budget affecté à la Sécu et un budget pour l'État. Parce que comme ça on aura un mode de prélèvement quelque part commun, une juxtaposition, en clair c'est très simple, hein, vous avez 100 de revenus, vous allez être imposé par exemple 10%, ben, 2 fois 5. Hein. 5% pour la Sécu, 5% pour l'État. Et juridiquement, si vous avez ça, c'est même supérieur, si on fait une loi organique, hein, ça veut dire que c'est une loi qui organise la répartition des compétences et des pouvoirs publics, et donc c'est quelque chose qui a quasiment valeur constitutionnelle, quelque chose qui pourrait sécuriser le budget de la Sécu, et avoir, tout en essayant de profiter d'un prélèvement commun. On n'y est pas encore à cette architecture-là, mais c'est prendre le bon de Piketty, tout en distinguant les deux budgets, parce que socialement, voilà, il n'y a pas ce consensus-là et tout. Et en plus, mon syndicat n'étant pas un gestionnaire de la Sécu, je suis très à l'aise pour dire qu'il faut deux budgets de la Sécu, parce qu'il y a une construction sociale en France qui fait que... Mais par contre, moi, je suis d'une école de pensée où on dit que oui, il faut que toutes les richesses contribuent au financement de la Sécu, parce que la vocation est universelle. Et je ne comprendrais pas, moi, que l'INB en cours entière ne contribue pas au financement de la Sécu, alors qu'on va se faire rembourser sans ses dépenses d'assurance maladie. Parce que concrètement, par la CSG, elle peut y contribuer à la Sécu. S'il n'y avait pas la CSG, en l'absence du revenu du travail, elle n'y contribuerait pas. Donc ça me pose un problème de principe quand même. Et du coup, le fait d'avoir une assiette qui ressemble à une assiette fiscale ne veut pas dire qu'on fiscalise au sens qu'on étatise la Sécu. Les deux termes sont tout à fait différents. Donc voilà, pour moi, sur le fusion CGIR, je suis très séduit intellectuellement par l'architecture, et pratiquement, je pense qu'il faut y mettre une limite verticale entre deux prélèvements, y compris sur une assiette commune. Et de la sorte, on pourrait même, si on pousse un petit peu, parce qu'on sait que la fiscalité, c'est toujours, ça se heurte à des rapports de force, le fait d'avoir une assiette commune peut maintenir des incitations pour un prélèvement, pas sur l'autre, par exemple. Bon, voilà, donc... On est en train de travailler à ça. Entre 2010 et 2011, on avait produit plusieurs petites choses avec les monologues, avec Copernic, moi tout seul également. Et on est quelques-uns à faire passer cette idée-là. Il y a des camarades de la CGT qui commencent aussi à réfléchir à cette question-là, donc c'est assez intéressant. Parce qu'on part, nous, du principe que, je disais, on n'a pas pu endiguer la baisse des ressources sociales. En tout cas, il y a une déconnexion entre les ressources et les besoins. L'exemple sur la dépendance est flagrant. Le fait de ne pas avoir de ressources publiques pour la perte d'autonomie dépendance, on est en train de faire le lit des compagnies privées qui se font déjà une concurrence pas possible. Les allègements de cotisations sociales, c'est 22 milliards d'euros par an. L'État compense pas tout, mais enfin quand l'État il compense, il prend aussi au service public, hein, de fait. Les niches sociales, c'est à peu près autant, donc on se prive de ressources. Le fait d'avoir l'histoire du budget de la sécurité sociale, dernièrement, il est marqué de ça, quoi. Donc, objectivement, il faut repenser le mode de financement. Je préfère que le mouvement social s'en empare plus pour ne pas laisser le champ à la TVA, par exemple. Et ça répond un peu à la question de la réforme fiscale de gauche. Si Cahuzac nous écoute ou pas. Déjà, on aimerait qu'il nous écoute sur la bonne marge de notre boutique DGFiP, ce qui n'est pas totalement le cas. Quand il était à l'Assemblée nationale, il aimait bien nous recevoir. Il était dans l'opposition. Donc, il nous auditionnait fréquemment, hein, sur les paradis fiscaux, le contrôle fiscal, y compris on était auditionné sur la DGFiP, etc.
Puis,
du coup, quand il était ministre, bon, on n'est pas naïf, hein, on est allé le voir en disant vous nous connaissez, on a tout ce qu'on vous a dit pendant depuis des années, figurez-vous qu'on le pense, on va vous le demander à vous maintenant. Hein. Et ça, donc, on a eu à la fois sur la fiscalité quelques débats, bon, mais. Nous, on est syndicat, donc quand on est syndicat face au ministre du budget, il n'aime pas trop nous reconnaître ce pouvoir de discuter budget. Il y a quelques années, on se prenait des remarques, il détestait ça. Maintenant, ils ont reconnu qu'on tenait ce discours-là. Ils jouent le jeu, mais ça reste compliqué, il faut passer des messages. Alors nous, on est assez offensifs sur le contrôle fiscal, en ce moment, beaucoup, enfin, depuis quelques années déjà, sur des missions de la DGFiP, bien sûr. Sur l'accueil, sur le conseil de collectivité locale, la gestion, enfin voilà, j'en passe. Donc on est, c'est vrai que syndicalement, on met le paquet là-dessus. Et quand on se retrouve en face de lui, on lui dit, notre discours sur la fiscalité, vous l'avez, c'est nos communiqués, nos dossiers, nos machins. Mais on profite qu'il est en face pour lui parler de la boutique Bercy, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fait partie de nos gouvernements qui dit que Bercy n'est pas prioritaire, de fait. Ce qui veut donc dire qu'on va se manger encore 2000 suppressions d'emplois l'année prochaine, après 25 000 depuis 2002. Et aujourd'hui, le sentiment dans les services, c'est on ne sait plus comment faire pour faire face à tout ça, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, nous, c'est vrai que syndicalement, notre priorité est là, même si on continue à porter le débat fiscal et essayer de faire un peu de pédagogie là-dessus. Oui, c'est un débat interne, mais non, mais il faut qu'on... Alors voilà, la fusion, maintenant ça s'appelle Direction Générale des Finances Publiques. Avant c'était Direction Générale des Impôts, Direction Générale de la Comptabilité Publique. Et c'était fréquemment d'ailleurs invoqué comme source de complexité. C'était la faute des syndicats d'ailleurs, s'il n'y avait pas de fusion et tout ça. Quand Sarkozy a été élu, d'ailleurs même avant qu'il soit élu, lors du débat qu'il opposait à Ségolène Royal, il a dit « Bon, ben, je vais réduire la dette en réduisant la dépense, en fusionnant les administrations, notamment les impôts et le trésor. » Pour faire court, enfin, c'était vraiment ça. Ce qui était une ineptie à la Sarko, vraiment, parce que quand même il aurait divisé les effectifs de nos administrations par deux, de toute façon, il ne pouvait pas réduire la dette avec ça. Bon, au contraire, même. Et donc, il a mis en place une fusion. Et alors, ils ont été, comme ils craignaient quand même la réaction sociale, il faut dire aussi que là, en 2000, il y avait eu un grand mouvement qui avait emporté la démission de Sauter. Mais en 2007, c'était quand même pris un coup de bambou. Il y avait déjà quelques fortes résignations dans les services et une capacité de réaction qui était affaiblie. Il ne faut pas se mentir, elle était affaiblie. Et puis en plus, il n'y avait pas un front syndical uni, parce que certains acceptaient la fusion, d'autres pas. Donc ça rendait les choses un peu compliquées. Et qui plus est, on nous a dit, mais vous savez, vous allez avoir une contrepartie. Et c'était le discours des RGPP à l'époque. On ne supprime pas un départ à la retraite sur deux. Ça fait une économie budgétaire et la moitié, on la redonne aux fonctionnaires. Alors chez nous, ça s'est passé de la manière suivante. Le directeur général des finances publiques, grand proche de Sarko, hein, donc il avait les mains libres pour mener la fusion, seul objectif comptait, et il s'est dit, ben, je vais faire un statut en or pour les cadres. Enfin, il a joué plus fine. Il a dit, il y avait les fonctionnaires, les agents du Trésor, les agents des impôts, on va faire qu'une catégorie. Qui dit une catégorie, dit les mêmes règles de gestion et le même régime indemnitaire. C'est là que ça commence, le sport. C'est qu'aux impôts, les catégories A, B, C, qui représentent 95% de la population, gagnaient un petit peu plus que leurs collègues ABC du Trésor. Ça représente quelques euros par mois. Hein. Mais donc, il y a eu un alignement, ceux du Trésor ont gagné quelques euros par mois. Par contre, les cadres qu'on appelle A+, à l'encadrement supérieur, du Trésor, gagnaient bien plus que ceux des impôts. Ce qui fait que ceux des impôts se sont dit « super ». Et comme en plus il a, comment dire, le directeur général a constitué un cadre, même ceux du Trésor s'y sont retrouvés. Parce qu'au début, ils se sont dit, on va se faire concurrencer par ceux des impôts pour avoir les postes de débouchés bien payés, etc. Donc lui, il a multiplié les postes de débouchés. Comme ça, tous les quatre contents. C'est vraiment sa tactique, hein, sa stratégie, ça a été ça. Et ça s'est traduit concrètement par des augmentations plus que substantielles, parce que l'augmentation la moins, par mois, hein, ce que je dis, la moins élevée, c'est les inspecteurs principaux, c'est 861 euros par mois. Ce qui veut donc dire que les directeurs départementaux, c'est plusieurs milliers d'euros par mois d'augmentation. Donc voilà, et la fusion, donc les cadres se sont dit, ben super, on y gagne, c'est super la fusion. Non mais je fais l'humour, mais c'est réellement ça. Ça a pour conséquence aussi que, malheureusement, hein, dans les services, la situation a contribué à se tendre, parce que déjà les cadres, les managers, bon, bref, les tableaux de bord statistiques, etc., c'est quelque chose qui passait de moins en moins dans les services. Et en plus, certains voyaient leur chef tout de suite gagner 900 euros ou plus par mois, alors que le boulot, lui, ne changeait pas. Alors évidemment, à la place des cadres, l'argent est venu, ils l'ont pris. Hein. Mais vous voyez, ça a eu des répercussions. Mais je dirais qu'à la limite, c'est un effet mécanique. Le vrai scandale, il n'est pas là. Si, le vrai scandale, il est ailleurs. C'est qu'à l'heure du bilan de l'RGPP, on nous a dit, on vous avait dit qu'on vous retournerait. Alors, on a eu, faut pas se mentir, on a eu 500 euros tous les agents par an d'augmentation. 500 euros par an brut, ce qui veut dire qu'on est aux environs, je ne dis pas de conneries, 34-35 euros net par mois. C'est, encore une fois, nous on demandait 700, on a eu 500, bon. Comme dit Coluche, hein, les ouvriers demandent ça, vous leur donnez ça, ben ils le prennent. C'est ce qui s'est passé. On a souhaité également, on a porté un dossier pour les catégories les moins bien payées, un échelon supplémentaire terminal, parce qu'on le catégorisait, se retrouvait bloqué, puis parfois il y avait 10-15 ans à faire, un échelon, voilà. Donc l'échelon, on l'a eu simplement, on nous a dit tout le monde n'y passera pas pour des raisons budgétaires. On a eu les 500 euros, mais la grosse base de fric, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette fameuse harmonisation pour les cadres A+. Et au moment où on a fait le compte de la RGPP, on nous a dit « vous avez la moitié, parce que tout ça, c'est trois mesures confondues, puis quelques mesures catégorielles, comme on dit, on va passer de C en B, de B en A, etc. Tout ça, ça représente 50%, donc vous avez eu votre retour. Sauf que sur les 50%, il y a plus de la moitié, c'était ciblé sur une petite minorité des agents. Alors chez nous, évidemment, les agents, hein, pardon, mais ils l'ont là, hein, il n'y a pas d'autre expression, parce qu'il n'y a pas eu le retour. parce qu'il y a eu plus de boulot entre-temps, enfin, pour tout un tas de raisons. Quoi. Et voilà comment une réforme centrale dans l'appareil d'État a été gérée. Qui plus est, là où ils auraient été malins, parce que dans cette période-là, nous, syndicats, on craignait qu'il y ait une totale dérégulation des règles de gestion. Donc il a fallu aussi batailler pied à pied pour pas qu'il y ait des réglementations. Et donc, autant sur les règles de gestion, il y a eu des choses, bon, on a à peu près consolidé certaines choses, mais sur l'aspect rémunération en tant que tel, on a augmenté les écarts de rémunération dans notre administration. C'est assez fidèle à la réalité. Ah oui, oui. Et ce qui d'ailleurs syndicalement est un vrai problème, parce que comme on a tous les syndicats ont des cadres chez eux, dès qu'on s'exprimait, ça m'est arrivé, j'ai fait une déclaration dans Le Monde un jour, parce que j'avais un truc là-dessus, en disant ben, cette harmonisation, elle a dégradé les rapports sociaux, elle a accru le malaise. Je ne stigmatisais pas, c'était un simple constat. Hein. Tous les cadres chez nous, ah, qu'est-ce que tu as dit, etc. Enfin, pour les syndicats, à la CGT, avec les copains de la CGT, défaut de la CFDT, on en a discuté, c'est les cadres aux organisations syndicales. On s'est dit, les cadres chez nous, dès qu'on dit un mot, tout de suite, ils sont. Enfin, si on ne le dit pas, c'est tous les autres qui nous disent, dites donc, vous protégez qui alors? Voilà, c'est. Pardon pour le côté un peu boutique, hein, mais vous voyez les inégalités, on en parlait tout à l'heure, ben, même dans la fonction publique.
Ça continue.
Oui, c'est acté.
Ça rebondit sur ce que vous disiez. Moi, je suis également très choqué sur le terme. Quand je parle fiscalité en interne, ou ça, avec tu sais un peu quel est le parcours, je ressens un vide. Ça n'intéresse pas. Je lance le terme choqué. La fiscalité n'intéresse, bon, on est 19 ce soir, n'intéresse quasiment personne. Et encore aujourd'hui, alors que tu vois, la crise est quand même là, on sait qu'il y a des difficultés financières, au quotidien, ça n'intéresse personne.
Et oui, mais.
Je pense que la majorité des gens, non, pensent qu'ils sont totalement démunis face à tout ça, et qu'ils ne subissent tout. Ils sont dans la merde et ils subissent des baisses de salaire, des hausses de TVA, des machins. Ils sont asphyxiés, donc bosser, ils n'ont même pas le temps. Et en plus, ils ont voté peut-être un changement. Et quand ils sont, attendez, ils sont résignés, ils ont voté, la gauche est passée, qu'ils soient d'ailleurs totalement content ou pas totalement content, ils se sont dit tiens, ça va peut-être changer quelque chose, et puis en fait, ils voient qu'une chose, c'est que ça n'a rien changé du tout. Souvent, leurs salaires ont baissé. Moi, j'ai vu ça, bon, je ne sais pas si c'était très égalitaire, l'histoire des heures supplémentaires. Moi, j'ai vu à côté de moi des gens qui avaient baissé du coup. Leur salaire, oui, boum, oui. Il a fait ça, oui. Comme ils n'avaient pas des salaires très hauts. Voilà, oui. Ça avait fait. La TVA a augmenté, on leur dit ça va augmenter. Oui. La TVA, ils vont se la payer en pleine figure demain. Alors, s'intéresser à la fiscalité, ils ont voté. Ils ont voté pour des députés, pour des gens qui devaient normalement être à gauche. Et puis maintenant, on leur dit que les transactions financières, on n'y touchera pas. Que les gens qui gagnent beaucoup, on n'y touchera pas, que eux, par contre, ben, ça ne va pas augmenter, puis que ben, tout est plus cher. Alors, il y a une espèce de ben, ras-le-bol, c'était pas bien quand c'était la droite, c'est pas bien maintenant avec la gauche, ben, on votera la prochaine fois Marine Le Pen, parce qu'elle nous dit encore plus de conneries, mais peut-être qu'elle y arrivera. Voilà. Ils sont pas, c'est pas qu'ils sont, oui, enfin non, résignés, ils attendaient, les gens ne peuvent pas.
Elle est délaissée, elle est mise de côté,
Elle est mise de côté par les politiques.
Alors que c'est l'outil essentiel.
Si, par les politiques.
Elle est mise.
On en parle, les politiques, comme des éleveurs, on en parle.
On est en train de sortir, ils sont dans la rue. Ouais, enfin.
Non mais.
Il y a Julie Bajoli quand même qui a eu des positions pendant la campagne.
Ouais, ouais.
Après, c'est clair que c'est pas très populaire, mais elle a eu un courage politique pour dire quand même.
même pas très populaire. Mais, parce que des évêques,
y compris, voilà ce que j'ai dit, des départs difficiles.
Mais c'est beaucoup plus engagé en femme là-dessus, en juge, etc. Ça dépend.
Mais,
c'est vrai,
ça ne peut pas être populaire.
Les heures supplémentaires, mais il y a pas de chat. C'est qu'en fait, Sarkozy a réussi à faire passer dans les têtes des gens qu'il y a une catégorie de revenus qui ne devait pas rentrer dans la position. Et donc, après, on est revenu sur une marche arrière, mais les heures supplémentaires, elles n'auraient jamais dû être exonérées fiscalement.
Moi je suis d'accord, nous on était très critiques sur l'exode des heures supplémentaires parce que c'est générateur d'effets pervers en pagaille. La loi TEPA c'était une hérésie économique. Hein. Mais par contre, là où je suis d'accord, il ne faut pas nier ça, c'est que individuellement, il y a des salariés qui se sont dit mince, ma situation se dégrade. Parce que dire à ces personnes-là, mais tu sais que macroéconomiquement c'était une hérésie, ça n'importe pas. D'autant plus, oui. Alors après, il y a plusieurs raisons. Non, mais bien sûr. Mais il y a plusieurs raisons. C'est que dans les situations de crise, on se replie sur sa sphère personnelle. Moi et mes proches. Et puis advienne que pourra, c'est une réaction, animale, quoi, je veux dire. Donc ça joue beaucoup, notamment dans les périodes de crise. Et puis le terrain n'a pas été préparé. C'est vrai que. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pas par rapport à cette mesure-là, mais depuis le temps. Moi, je pense que depuis 2-3 ans, il y a effectivement eu un petit changement de discours chez les responsables politiques sur l'impôt. Mais 2-3 ans sur. Quand je dis changement de discours, je vais m'expliquer, c'est pas nécessairement un discours positif, mais on est sorti de la période des promesses de baisse d'impôts. Maintenant, on promet des non-augmentations, on promet des augmentations pour les plus riches, on dit les paradis fiscaux, on essaie de trouver la solution miracle pour dégager plus de ressources sans faire payer les gens, ce qui est assez risqué. Hein. Non mais, effectivement, c'est un peu ça. Hein. Donc du coup, c'est plutôt l'autre qui va payer. Bon, sur les riches, c'était assez facile parce qu'effectivement, ils avaient bénéficié d'allègements massifs d'impôts. Donc, en plus, il y avait économiquement, socialement, budgétairement nécessité. Là-dessus, c'est certain. Mais par contre, pour le reste, c'est difficile de dire, bon, ben voilà, maintenant, peut-être que chacun va payer plus. Parce que, alors là, pour le coup, il faudrait qu'on attaque un autre débat. C'est parce que, bon, depuis tout à l'heure, on dit ce qu'on paye pour les services publics, etc., ce qui est une réalité. Mais c'est aussi développer l'idée, c'est on va payer pour une dette. D'où elle vient la dette? Qui en a joué? Alors là, et à ce moment-là, bon, bien sûr, le service de la dette est le premier budget, mais c'est surtout qu'on se trouve, mais là aussi sur la dette, 2 minutes quand même, parce qu'il y a de la pédagogie à faire sur la dette. Parce que moi je me souviens de Raffarin, parce que la dette n'est pas, le discours sur la peur de la dette n'est pas né de la crise, elle le précède. Rappelez-vous le rapport. Pébro sur la dette publique. Et encore, le rapport Pébro, c'était 2006, mais Raffarin déjà lui-même disait il faut gérer l'État en bon père de famille, il ne faut pas être endetté. Économiquement, dire ça, c'est une ineptie. Moi, je suis un bon père de famille, je suis endetté. On a acheté un appartement, on s'est endetté parce qu'on n'avait pas assez. On n'allait pas vivre pendant 20 ans sous des ponts pour mettre de côté pour ensuite acheter un bel appartement. Donc l'endettement pour l'investissement, économiquement, il est pertinent. On peut être tout le temps en déficit à partir du moment où ça correspond à un endettement, il n'y a aucun problème. Donc de ce point de vue-là, et parce qu'en plus ça produit des effets économiques et également sociaux, hein, si on investit dans des hôpitaux, des écoles, etc., on a intérêt à s'endetter, même hein, pour les avoir vite tout de suite, plutôt que d'épargner, pour éventuellement un jour se les payer. Personne n'a tenu ce discours-là, aucun économiste ne dit le contraire. Hein. Après, le débat commence sur c'est quoi un investissement. Alors, évidemment, on peut.
Il y a quand même une notion de durée raisonnable d'endettement.
Oui, non, mais avant d'arriver à là.
100 ans sur un appartement, par exemple.
Certes, oui, mais justement, mais avant d'arriver à ça, il y a déjà la question des principes et de, par exemple, de ce que c'est qu'un investissement. Parce qu'on a, il y avait des discussions sur est-ce que l'éducation nationale est un investissement, après tout, pour l'avenir, c'est un investissement, la matière grise, l'enseignement supérieur, la recherche, etc. Donc. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce que c'est qu'un investissement, et donc tout le monde n'est pas d'accord sur ce que pourrait être un déficit lié à l'investissement, accessoirement lié à ça. Ensuite, il y a du déficit conjoncturel, qui alimente une dette. Donc dans la dette, il y a plusieurs strates, il y a plusieurs étages, il y a une histoire. La dette, c'est la somme des déficits non remboursés. Hein. Donc il y a plusieurs déficits, et qui ont plusieurs. Il y a de l'investissement, jusque-là, rien de choquant. Il y a les déficits conjoncturels. Là-dessus, moi, je suis assez keynésien. Hein. Quand il y a un déficit conjoncturel, on a intérêt à laisser courir la dépense. Hein. C'est justement, et aujourd'hui, on le sait, tous les modèles mathématiques, c'est ce qu'on a, hein, le montre, un point de dépense publique, c'est un point de PIB de croissance. On veut réduire la dépense publique, donc on marche sur la tête. Bon. Mais en tout cas, on a intérêt à laisser filer la dépense, c'est ce qu'on appelle les amortisseurs sociaux. Hein, comment dire, qui l'indemnisation chômage, qui notamment tout ce qui est dépenses sociales. Donc on a intérêt à ça. On a voulu le réduire. C'est là aussi, bon. Sauf que ça, c'est une dette, c'est une part de dette qui peut s'expliquer. Puis après, il y a des parts de dette, quand on dit c'est une dérive des dépenses de l'État. Non. Pourquoi? Parce que ce que l'État finance, ce que les collectivités locales financent, alors, on pourra toujours trouver des dérives ici ou là. Il y a toujours des cas de dépenses publiques, ça on est d'accord. Mais il y a des cas de dépenses privées pareil. Hein. Les scandales en termes de gestion de la dépense, malheureusement, ce n'est pas l'apanage du public, c'est aussi le privé, les scandales Enron, WorldCom, enfin je ne fais pas le topo, mais il y a un certain nombre de scandales de la sorte. Donc, par essence, l'argent public n'est pas plus mal géré que les autres, nécessairement, en plus il y a des organes de contrôle, mais objectivement, il est vrai qu'il doit être bien géré également. Enfin, je referme la parenthèse. Mais il n'y a pas eu de dérive structurellement, pourquoi? Parce qu'il y a eu simplement une hausse d'augmentation des besoins sociaux, notamment en matière de protection sociale. Parce que la part de l'État, elle, a diminué dans le PIB. Alors, en partie parce qu'il y a eu des transferts de compétences au niveau des collectivités locales, c'est vrai, etc. Mais globalement, la part des deux est stable. La part de l'État a diminué, c'est les collectivités locales un peu augmentées. Mais dans les collectivités locales, il y a une augmentation aussi des besoins, une augmentation de la réglementation. Qui dit réglementation, on se dit aussi de nouvelles dépenses, les normes, etc. Et puis en ce qui concerne la Sécu, eh bien, qu'est-ce que vous voulez, la population vieillit, donc ça veut dire plus de retraites, ça veut dire l'assurance maladie, etc. Donc les dépenses d'assurance maladie, tout ça, je reviens à mon raisonnement de tout à l'heure. Est-ce qu'on le prend en charge? Oui, non. Sinon, ben, à ce moment-là... Tant pis, hein, on revient à l'état de nature, quelque part, enfin, on régresse. Si c'est oui, eh ben le débat politique, c'est de dire est-ce que c'est public ou pas? Est-ce que c'est on le fait tous ensemble pour tout le monde ou est-ce que c'est chacun pour soi? Et donc, du coup, on revient. Donc, il n'y a pas eu de dérive, il y a eu une explication de l'augmentation de la dépense, qui encore est bien moindre depuis une quinzaine d'années. Il y a plutôt une stabilité. Maintenant, ça va un peu repartir parce qu'il y a l'impact de la crise et plan de relance, etc. Mais il y a plutôt une stabilité. Mais l'augmentation tendancielle, elle s'explique. Il y a des facteurs qui s'expliquent. Ce n'est pas une dérive. La qualifier de dérive, ça, c'est du discours politique pour décrédibiliser ce qui est public. Par contre, personne ne penserait à dire qu'il y a une dérive des dépenses privées en matière d'assurance maladie. C'est ce qu'ils recherchent, là, une dérive des dépenses privées en matière d'assurance maladie. Donc là aussi, voilà, repédagogie, explication, etc. De ce point de vue-là, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas eu d'explication de la dette. Alors après, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas avoir... alors après, il y a la dette de la crise, il y a les allègements fiscaux. Je disais tout à l'heure, les allègements fiscaux ont alimenté la dette. Et ce n'est pas une bonne dette. Donc il faut, en analyse, il faut bien voir qu'il y a une part de dette qui s'explique, qui peut-être même est souhaitable. Il y a une part de bonne dette pour faire quoi? Il y a une part de mauvaise dette. Et il est vrai qu'on ne peut pas vivre toujours sur un accroissement de la dette non plus. Mais après, c'est comment on la paye? Qui la paye? Réinjecter des fonds pour soutenir, ce qu'on dit, mettre de l'eau dans le sable. C'est-à-dire injecter des fonds sans contrepartie, sans contrôle, sans savoir où ces fonds vont. C'est quelque chose qui économiquement est absurde, contre-productif, évidemment totalement injuste. C'est quand même ce qui a été fait. Ça a accru la dette, hein, salement. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le débat il se pose sur la question de la dette. Est-ce qu'il y a une part qui est légitime ou pas? Comment on fait? Parce que, objectivement, pour faire payer la dette, il y a un moyen très simple, hein, c'est d'en annuler une partie, en la ciblant en fonction. Alors, c'est là que le travail commence, c'est le travail d'audit citoyen de la dette, etc. Hein.
Moi, ce qu'on pourrait, parce que je trouve que du point de vue pédagogique, là, c'est très intéressant de faire de montrer ce que le coût de l'école primaire, le coût de l'école, des chiffres très simples pour informer les citoyens sur le privé. Où est-ce qu'on peut avoir les informations là?
C'est enfin, très...
même si elles ne sont pas absolument à la virgule.
Alors, l'OCDE sort un truc sur le coût du système éducatif, et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il mélange privé et public. Il faudrait que je le retrouve parce que les tableaux sont actualisés assez régulièrement. Moi, j'avais essayé, alors on avait, mais on n'y est pas allé au bout pour l'instant, on avait essayé de répertorier un certain nombre de coûts pour démonter une idée qui était, ça vaut ce que ça vaut, mais rappelez-vous toujours pareil, Raffarin Pébreau, on est avec 17 000 euros de dette, alors maintenant c'est 33 000. Enfin, bon, ben, chaque nouveau-né, alors là, ça fait peur, oh, le pauvre nouveau-né, il a une dette. Dans une situation privatisée, il en aurait une, hein. La sage-femme qui le met au monde, elle, son salaire, les infrastructures, soit ses parents payent, c'est une forme de socialisation, surtout pas, mais à ce moment-là, il faudrait lui créer un compte en disant, ben voilà, on va inscrire ça, comme tu ne gagnes pas encore ta vie, petit bébé, tu devras ça bientôt, etc. Et on retrouverait les mêmes coûts. On trouvait les 33 000 euros de dette. Hein. Et on avait essayé, parce que on avait essayé de j'ai pas la somme en tête, mais le coût d'un accouchement, c'est extraordinaire. Hein. C'est très cher d'ailleurs, je trouve. Enfin, bon, faudrait peut-être dans la nature, je ne sais pas. Mais parce que ça démontait l'idée de la dette, c'est terrible. Regardez le poids de la dette publique et ce pauvre nouveau-né. Et ben on pouvait dire simplement, parce que économiquement c'est pertinent, de dire s'il n'y a pas de dette publique, il y a une dette privée. D'ailleurs, c'est même elle a été très déstabilisatrice, beaucoup plus que la dette publique est devenue une valeur refuge pour les acteurs privés, lorsque la crise de la dette privée a explosé, notamment qu'on fait les subprimes, etc. Mais on pourrait même arriver dans des exemples très ciblés à dire, regardez votre nouveau-né, il naît, il doit déjà 30 000 euros,
rien pour son accouchement, etc. Mais ça se passe, la dette des étudiants, ils en ont parlé.
Oui, mais ça recommence. Ça recommence.
Moi, c'était juste qu'on n'en parlera pas ce soir, mais parce que ça serait certainement trop long. Mais c'est tellement flou pour moi, j'entends parler du revenu de base. Mais je ne vois pas revenu citoyen, revenu universel, revenu de base. Mais je ne vois pas du tout comment ça peut, avec l'histoire d'impôts justement et des problèmes, je ne vois pas du tout comment ça peut se mettre en place.
Alors schématiquement, il y a ceux qui pensent qu'il faudrait refondre tout ce qui est RSA, PPE, y compris certaines allocations, et puis attribuer à tout le monde un même revenu de base. Alors ça pourrait prendre plusieurs formes, ça pourrait prendre la forme d'un crédit d'impôt, donc un crédit d'impôt annuel, que sais-je, que vous imputez sur votre impôt, et puis tout ce qui excède, on vous le rembourse par exemple. Ça pourrait être un revenu socialisé, général, je ne sais pas, 1000 euros, 2000 euros par an, plus, moins, etc. Et puis après, évidemment, c'est la question des financements. Et donc, il y a le débat sur le financement, parce que ça représente un coût important, même s'il y a un retour, parce qu'avec ce revenu-là, c'est la consommation, etc. Et puis, il y a surtout le débat sur le revenu d'existence, etc. Est-ce que ça s'additionne aux prestations qui existent, ou est-ce que ça les remplace? Là, c'est pas neutre, parce que les prestations aujourd'hui, prime pour l'emploi et RSA, un certain nombre de prestations sociales sont sous conditions de ressources, alors que le principe du revenu d'existence est tout le monde pareil. Et puis d'autres sont ciblés en fonction des allocations familiales, les enfants par exemple, etc. Donc c'est difficile de tout refondre, parce que ça voudrait dire qu'on abandonne les allocations familiales ou alors il faudrait les refondre. Alors c'est une idée généreuse. Pour l'instant, je n'ai jamais vu de projet très convaincant là-dessus. Et pourtant, on avait décidé avec Jean-Marie Ribet et Dominique Pignon de se faire un petit groupe de travail pour plancher sur la question. Et ça fait 2 ans. Voilà. On n'a pas avancé.
Bon, je pense qu'on va te remercier.
Merci d'être venu. Merci.